Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise à l'élection présidentielle, député européen. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour Monsieur Mazerolle.
Vous êtes en pleine forme en ce moment, bien placé dans les sondages. Et puis vous avez vos signatures pour pouvoir vous présenter à l'élection présidentielle. 517 toujours ?
Ça monte tous les jours un petit peu.
D'accord.
C'est pas fini, il m'en faut d'autres parce que vous savez que le procédé est complètement changé. Ce sont les élus eux-mêmes qui vont devoir faire la démarche. Donc il faut qu'il y ait une marge de manœuvre suffisante. D'ailleurs, si je n'ai pas cette marge de manœuvre, le banquier continuerait à me bouder. Et il m'en faut donc 600 ou 650 pour être tranquille. Mais comme les communistes vont bientôt prendre la décision de faire signer les élus qui le peuvent, je pense que j'aurai la marge de manœuvre nécessaire, puisqu'ils me soutiennent, et je leur en remercie d'ailleurs.
– Alors, votre mouvement de la France Insoumise, presque 200 000 personnes, c'est ça? Vous cartonnez sur le net, vous êtes le recordman politique des fréquentations avec votre chaîne YouTube. D'ailleurs, vos suiveurs ont inventé un slogan difficile à traduire en français, « Canstention de Mélenchon », je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire.
–
Bon, et puis, maintenant, vous, Olaf, doté du ton d'ubiquité, puisque le 5 février, vous allez faire un meeting à Lyon où vous serez physiquement présent, et simultanément, par hologramme, à Paris. Vous allez bientôt marcher sur l'eau, si vous avez voté lui.
Mais si c'est une façon de dire quelque chose, je le ferai, monsieur Mazerolle. Et là, je voulais dire quelque chose. Vous permettez, je m'en explique un instant. Bien sûr, il y a un fait hors du commun. Pour l'instant, on n'a encore jamais vu d'hologramme politique.
Là, c'est bien vous, là, aujourd'hui.
Oui, c'est bien moi. Mais attendez, dans un instant, ça pourrait être mon hologramme. Ah bon. Je m'amuse beaucoup, non seulement de ce que ça m'amuse, mais de votre amusement. Parce que devant la nouveauté technique et scientifique, nous sommes tous comme des gosses, quel que soit notre âge. Et c'est un très bon signal d'humanité. Et précisément, je vais vous dire franchement comment ça s'est passé. Je cherchais comment empoisonner la vie de Madame Le Pen en montrant quelque chose qui soit le contraire de ce qu'elle est. Parce qu'elle est à Lyon le même jour où elle tient je ne sais quelle réunion pour démarrer sa campagne.
C'est son lancement de campagne, oui.
Ah oui, c'est ça. Le lancement de campagne, voilà. Alors, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais y aller à Lyon, parce que je n'ai jamais accepté la banalisation de l'extrême droite. Jamais.
Comme Emmanuel Macron, vous serez trois ce jour-là à Lyon.
Eh bien, tant mieux. Voilà. Comme ça, elle sera
pas toute seule. C'est le week-end.
C'est le week-end lyonnais. Bon, alors, on sera là, c'est les trois qui se jouent pour le deuxième tour, on l'a compris. Donc, mais je cherchais quelque chose qui soit pacifique, souriant, qui fasse réfléchir après que cette femme ait encore trouvé une horreur tout à fait digne de son courant politique, et de dire, on n'enseignera plus les enfants des étrangers. Alors, dans les étrangers, catégorie confuse dans l'esprit de cette femme, qui sait quoi. Mais quand bien même, il n'y en aurait-il qu'un ou deux. Est-ce qu'un pays peut vivre mieux avec plus d'ignorants, c'est-à-dire moins d'enfants éduqués. Comment on peut... Le croire, c'est le fait d'un ignorant.
Mais alors pourquoi l'hologramme?
Et voilà. Parce que l'hologramme, c'est la science, on va dire en général, même s'il y a un côté gadget que tout le monde voit. Hein, mais c'est la science. Et la science a un principe. Quel que soit... On pose un raisonnement, et quelle que soit votre couleur de peau, votre religion, votre âge, votre genre... vous pouvez arguer, c'est-à-dire dire non, ce n'est pas vrai parce que, oui, c'est vrai parce que. Et plus il y a de savoir qui se répand, plus nous sommes savants tous. Je termine en disant ça, c'est la seule richesse, avec l'amour peut-être, que plus on la partage, plus il y en a.
Alors,
et c'est ça
moi.
Que je voulais opposer comme symbole. Alors vous me direz, c'est un peu loin. C'est un peu loin. En tout cas, ça fait parler, non?
Avec moi pour vous interroger aujourd'hui, Alexis Brézé du Figaro et Christophe Jacubizine de LCI. Alexis.
Oui, juste une question sur toute cette nouvelle technologie, les réseaux sociaux, YouTube, l'hologramme maintenant. Est-ce que vous pensez que ça va finalement remplacer la politique à l'ancienne, le porte-à-porte, les marchés, le tractage,
les
tout ça
politiques.
C'est une politique qui remplace une autre ou ça va s'ajouter?
Il faut vivre avec son temps. Tout ce qui permet d'ouvrir du débat, d'intéresser, d'être sensibilisé. Vous savez, moi j'ai commencé ma vie politique, on me faisait des tracts à la Ronéo. Figurez-vous que je ne le regrette pas. Si vous voulez aller en faire, allez le faire. Mais moi, je préférais de loin faire mon blog chaque semaine, mon poste qui m'oblige à écrire, faire ma revue de la semaine sur YouTube, voilà. Bon, alors, est-ce que ça va remplacer? Non, c'est comme les médias. Aucun média n'exclut l'autre. Quand la radio est apparue, elle n'a pas anéanti la presse écrite. De même, la télé n'a pas anéanti la radio, et l'Internet n'anéantira pas la télé. C'est un autre domaine. Alors, Ça, c'est, la, c'est le, disons, le sociologue qui vous parle. Mais maintenant, le militant politique, lui, se frotte les mains. Parce que c'est le moyen de vous contourner, c'est clair. Je n'en suis jamais caché.
Contourner les médias.
Oui, et vos soi-disant, le système soi-disant qui pose des questions impertinentes dont j'aurais peur, quelle rigolade. Je n'ai peur de rien.
Mais on va vous en poser juste
allez, allez, encore vous.
Non, pas la vie politique.
Mais en même temps, non, pardon, mais qu'on, je ne suis pas là par allez. Hasard aussi, j'ai choisi d'être non. là. Mm-hmm. Et c'est important d'avoir ce contact avec les journalistes. Bon, là, nous sommes quatre hommes, donc il n'y a pas de femmes pour nous déranger. Si j'ose dire, c'est vous qui choisissez ce genre de configuration.
Ça, c'est vous
et vous voyez
dites,
déjà que vous êtes le vieux monde. Parce que le monde actuel n'est pas comme ça, il est mixte.
Vous avez pu avoir Daniel Simonet comme candidat.
Alors, maintenant, les questions politiques. Christophe Jacobucine.
Alors, la primaire socialiste, il n'y avait pas votre hologramme, puisque vous n'y participiez pas.
Vous savez quoi ? Le tweet qui a été le plus retweeté, c'est un de vos collègues qui a dit « Et maintenant, imaginez Mélenchon qui surgit en hologramme. » On a tous bien ri.
Pendant le débat de la primaire.
Oui, pendant le débat.
Vous avez regretté justement de ne pas être dans cette primaire pour peut-être faire bouger un peu les cartes et les discours de cette primaire ?
Si c'est le but de faire bouger, j'ai déjà gagné. Parce qu'il y en a déjà au moins un ou deux qui se sont décoincés, qui ont compris que la question de l'écologie politique était devenue centrale.
Donc vous dites Hamon et de Rugy.
Mais même Montebourg a dû bouger. Au début, il était gaz de schiste et nucléaire comme pas. Maintenant, bon, il admet qu'il faut peut-être un peu moins de gaz de schiste ou pas du
ça
tout.
Ça veut dire que vous allez pouvoir commencer à parler avec eux, notamment s'ils sont investis
mais
par les militants socialistes.
Mais moi,
je
n'ai jamais eu de difficulté pour parler avec eux, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est une primaire d'anciens ministres. Je n'ai pas été ministre, je ne partage pas le bilan.
Vous
et c'est ce bilan.
Vous êtes ministre,
vous
même,
faites ministre en
oui,
votre
mais
temps.
Pas du gouvernement Hollande. J'ai été le ministre de Lionel Jospin, à qui on peut faire bien des reproches, mais à qui personne, j'imagine, n'aura l'audace d'aller reprocher les 35 heures sans perte de salaire, la CMU, l'APA et la mise en vert de tous les comptes sociaux. Bon, donc j'ai un bilan que je peux assumer avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Tandis que ceux-là, ils n'assument rien. Ils viennent et vous expliquent qu'il faut voter pour eux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le type avec qui ils ont travaillé, dont ils ont appliqué la politique.
Les ne dis pas ça.
Attendez. Ah bon, monsieur Mazerolle, vous allez nous l'apprendre. Donc, ils sont redevenus solidaires de François
non,
Hollande.
Non, je dis Valls ne dit pas ça.
Oui. Ah bon, mais les autres, alors ? Bon, c'est quand même un problème, non ? Si la vie politique a une dignité, c'est qu'on assume ce qu'on dit, ce qu'on fait. Moi, j'assume ce que j'ai dit et fait dans le passé. Eh bien, pourquoi ne le font-ils pas ? Parce que c'est ça qui a démoralisé tout le monde. Et maintenant, les voilà qui sont absolument inutiles. Je rappelle que cette primaire n'est pas la primaire de la gauche, mais celle du PS et du PRG, et que deuxièmement, elle sert à désigner le perdant.
Oui, vous
c'est ça
qu'il
quand même faut pas perdre de vue. Par conséquent, à quoi bon cette primaire et à quoi bon ? Je l'ai dit d'une phrase que je veux résumer, qui résume bien ma pensée sur le sujet. Il ferait mieux de présenter des excuses plutôt que des candidats.
Oui, mais au début, vous venez de dire que certains sont devenus fréquentables, notamment Hamon et Montebourg. Est-ce que ça veut dire qu'au lendemain de cette primaire, dans un sens ou dans l'autre, peut-être que c'est le souhait des électeurs de gauche, vous vous retrouviez pour présenter une candidature
commune ? Mais ça, c'est vos contes de fées, c'est la belle au bois de Bourbon.
C'est l'heure qu'on
après avoir mangé la pomme empoisonnée, elle s'évanouit, surgit le prince charmant. Tout ça, c'est des histoires... Pour les enfants, c'est bien, il en faut des histoires pour les enfants. Mais là, on parle de choses sérieuses. Il s'agit de gouverner la cinquième puissance du monde au moment où la guerre généralisée se dessine et où nous sommes dans une catastrophe écologique que le principal président du principal, la principale économie du pays, du monde, nie. Donc c'est une situation de crise grave. Que valent les rafistolages de dernière minute pour trouver quoi ? Une martingale ?
Non mais vous
qui
vous dites que la primaire ne sert à rien. Mais est-ce que vous dites après tout... Une candidature d'un de ces socialistes ne sert à rien, il vaudrait mieux qu'il soit derrière moi.
Ah ben clairement.
Ah ben voilà, donc vous mais dites attendez, comme eux, mais dans l'autre sens.
Mais non, mais c'est pas le sujet. Chacun a sa dignité, développe ses idées et est maître de ses choix. Honnêtement, je vais faire bref. Je ne suis pas intéressé à la carabistouille. Je suis intéressé à la mobilisation intellectuelle de ces millions de gens,
alors
de toutes opinions, s'il vous plaît, qui ont compris qu'il faut remettre à l'ordre du jour le progrès social, le progrès écologique, alors, et changer des institutions assez folles pour nous livrer à un homme qui fait le contraire de ce qu'il dit sans que personne ne puisse rien
Jean-Luc
faire.
Mélenchon.
Le contraire de ce qu'il dit est quatre guerres. Hein,
Jean-Luc Mélenchon, vous dites finalement, entre Macron et moi, il n'y a personne à gauche, donc ça ne sert à rien la présentation.
Mais d'abord, M. Macron n'est candidat. Pas à gauche, qu'est-ce que vous faites, M. Mazerolle ?
Attendez, mais c'est vous qui avez dit dans une interview au Monde, le candidat socialiste, il ne sert à rien parce qu'il n'est pas en tête par rapport à Macron et par rapport
mais
à
mais
moi.
Mais M. Mazerolle,
mais
non,
pourquoi
non.
Attendez, excusez-moi, je finis ma question. Pourquoi un électeur socialiste irait-il plutôt vers vous que vers Emmanuel Macron ?
Mais je n'en sais rien. Peut-être parce que je l'aurais convaincu. Voici ce que j'ai voulu dire. Ne dites pas que M. Macron est de gauche. Ce n'est pas que je veuille lui récuser cette étiquette. C'est lui qui dit qu'il ne l'est pas.
Ah non, il dit qu'il est de gauche, mais pas socialiste.
Bon, ah bon, mais c'est nouveau.
Non, donc non, le fait qu'il y ait
trois. Non, monsieur Mazerolle, c'est pas ce que vous croyez. Vous avez mal lu. Le fait qu'il y ait trois anciens ministres de droite avec lui n'a pas de, de signification particulière. Mais peu importe.
Je n'ai pas l'impression.
Je dis ce qu'il dit, c'est tout. Point.
Bon, d'accord, très bien.
Monsieur alors, quel,
rappelez-moi votre question, parce que je vois que, comme je sais qu'il y a ici des défenseurs ardents de monsieur Macron, et je sais qu'on ne pourra pas prononcer une parole de côté. Alors allez-y, j'ai rien compris. Non. Redites-moi la question.
Pourquoi un électeur socialiste choisirait-il plutôt chez Mélenchon que chez Macron?
Absolument. Eh bien, je vais vous dire pour quelle raison. Parce qu'il est équipé d'une chose grise sous ses cheveux qui sont lavables, qui s'appelle un cerveau qui, lui, n'est pas lavable. Et donc, il aurait de la mémoire. Et il se rappellerait que les solutions que propose M. Macron sont des solutions qui échouent depuis 30 ans. C'est le libéralisme. Et d'ailleurs, cet homme, qui est très brave, hein, et je le remercie de tout ce qu'il fait pour prendre les autres en tenaille avec moi. Mais vous avez vu, il n'en rate pas une, quoi. Il ne peut pas s'en empêcher. Il arrive dans le Pas-de-Calais. Et il leur dit, ah ben oui, il y a le tabagisme et l'alcoolisme, il ne manque plus que l'inceste, et comme ça le tableau serait complet. Il s'en va aux Antilles, et en cours de route, il dit, on va s'expatrier. Enfin, cet homme vit ailleurs, je ne lui en veux pas, hein. Il peut croire ça. Mais attendez, il vit tellement ailleurs qu'il parle aux gens comme à des domestiques. Quand il fait son meeting à Paris, il se met à hurler pour dire, maintenant vous allez militer, etc. Moi, je ne parle jamais aux gens comme ça, hein, mais il y en a comme ça. Et quand il arrive à Lille, il leur dit...
Il vous arrive d'élever la voix, quand même.
Oui, oui, mais je ne me trompe pas de cible, moi, quand j'ai la voix. Hein. Je ne me fâche pas avec les pauvres, comme lui l'a fait, ou les gens qui sont dans la difficulté. Parce que hier, il faut le faire. Imaginez-vous que j'ai dit une bêtise pareille, de dire « je ne veux plus entendre de gens qui disent « je veux rester encore un peu au chômage ». Vous en connaissez, vous, des gens qui disent « je veux rester encore un peu au chômage », vous croyez que c'est vraiment ça le problème d'aujourd'hui? Il y a des gens qui meurent, 14 000 par an, meurent des maladies qui sont liées à la déprime du chômage. Le chômage est un fléau pour tout le monde. Alors je ne dis pas qu'ici ou là, il peut y avoir une personne, mais pourquoi au nom de cette personne flétrir tous les autres qui misèrent et qui galèrent et qui mènent une vie de chien alors qu'il n'y a pas de raison qu'ils mènent cette vie?
Comment vous expliquez qu'ils remplissent Macron, qu'ils remplissent comme ça les salles et les meetings?
Je n'explique pas et d'ailleurs je m'en fous. Parce que, non mais pourquoi vous me posez cette question? Je ne m'appelle pas Mazerolle, moi. C'est à vous de commenter. C'est à vous de faire le boulot de commenter. Expliquez-vous.
Vous pouvez avoir un avis.
Mais vous pouvez me demander pourquoi je remplis ma salle.
Vous pouvez avoir un avis. Allez-y, posez-moi la question. Qu'il a, pourquoi il remplit des salles?
Mais j'ai pas dit qu'il avait des défauts. Vous avez du mal, vous, à comprendre la vie politique. Vous croyez qu'on est tous en train de vendre des savonnettes. Et vous croyez qu'on vend la même. Ça ne m'étonne pas de vous, parce que...
Mais je
ne
pense pas que vous ayez les mêmes idées que Macron, non.
Ah, quand même. Ceci est arrivé jusqu'à vous. Bon, donc, il y a des gens qui se reconnaissent dans ce qu'il dit et qui vont l'écouter. Et il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis. Alors. Et puis, vous avez des gens qui ne savent pas encore et qui vont écouter si. M. Macron et moi. Et c'est très bien. Ça, c'est la dynamique de la
donc
politique.
Donc, on a bien parlé d'Emmanuel Macron, mais...
Non, vous en avez parlé.
J'ai une autre question à vous poser. Vous avez
vous
dit...
Vous voulez pas qu'on parle de Trump
vous avez dit... Non, on va vous parler de votre programme, ne vous inquiétez pas. Il est faux de dire que les ouvriers votent Front National. En réalité, 60% d'entre eux ne votent pas. C'est bien ce que vous avez dit.
Oui, c'est le chiffre qu'on m'avait donné. Alors
d'accord, non, mais très bien.
C'est vrai ou alors, pas, M. Macron?
Pourquoi?
Attendez, c'est vrai ou pas?
Mais je n'en sais rien.
Ah, tiens.
Mais non, mais je pars du principe que vous avez dit une chose exacte.
Bon, merci. Bon,
mais pourquoi, alors ça, c'est nouveau. Dans ces conditions, ne vote-t-il pas pour vous? Pourquoi ne se dérange-t-il pas pour voter pour vous?
Quand, cette fois-ci?
Non, mais 60%,
d'une façon générale, jusqu'à maintenant.
Eh bien, ils ont des raisons. Ils ont été écartés. De la vie politique de mille manières. D'abord, ils n'ont plus d'existence visible. Dans les statistiques, vous apercevez qu'à la télé, on voit 3% d'ouvriers et 60% de cadres quand on fait une interview. Quand on parle des ouvriers, c'est soit pour dire « Ah ben ils votent Front National », même si c'est pas vrai, soit pour dire « Ah ben ils sont violents, ils ont tout cassé en faisant la grève ».
Mais ils votent plus Front National que pour vous, c'est ce que veut dire Olivier. Pourquoi est-ce qu'ils votent plus Front National que pour vous? En proportion, c'est un fait.
Mais
ça.
Encore une fois, même si c'était vrai...
Ben c'est vrai.
Attendez, c'est à vous de l'expliquer, c'est pas à moi. Moi, je ne suis
alors
pas...
Comment les reconquérir, alors?
Voilà la bonne question.
Ah ben voyez.
Vous y venez, monsieur Macron.
On va y arriver, là.
Mais présentez-moi vos questions avant et je vous aiderai à les formuler correctement.
C'est la République de Mélenchon, ça?
Non, ouais, ça y est.
J'en profite, comme vous.
On remarquait que c'est au moins aussi facile que ce que je vous ai fait à vous il y a un instant. Bon, donc je l'admets. Mais... La question qui se pose à moi, c'est le constat que je fais. 60% des ouvriers qui ne votent pas, je leur dis, mais mes amis, arrêtez, quoi. Parce qu'il y a toujours eu des ouvriers de droite. Mais c'est normal, on n'est pas en guerre civile, on a le droit d'être de droite, même quand on est ouvrier. De même qu'on a le droit d'être de gauche, même qu'on est, on est millionnaire. Léon Blum était pas, était un critique d'art. Jean Jaurès était un professeur de philosophie. Enfin, on ne va pas assigner à résidence intellectuelle des gens à cause de leurs conditions sociales. Ça, c'est du marxisme à deux balles, hein, de la sociologie extrêmement étroite. Donc, la classe ouvrière, les ouvriers, parce qu'il n'y a pas de classe plus nombreuse dans ce pays. Il y a 6 millions d'employés dont la définition jouxte celle de la, de, du travailleur classé comme ouvrier. Ça fait 13 millions de personnes sur 23 millions d'actifs. Il n'y a pas de classe plus nombreuse. Donc on l'a invisibilisée et néantifiée. Chaque fois qu'on parle d'elle, c'est pour dire qu'elle vote mal, qu'elle est bête, que ceci, que cela. Moi je dis, alors les gens sont outrés. Puis là-dedans, il n'y a rien qui nous convient. Et puis comme on n'arrive pas à
faire... Mais vous essayez de dire autre chose.
Mais oui,
alors eh bien. Pourquoi ils ne viennent
pas... Mais M. Mazerolle, alors d'abord, commençons par régler le sort, si j'ose dire, de ceux qui votent Front National. Il y a toujours eu des ouvriers de droite. Il y a toujours eu des ouvriers de droite, et donc ils votent maintenant souvent à l'extrême droite. La droite classique a perdu pied dans la classe ouvrière. Ça, c'est le principal phénomène. La gauche a perdu pied... Et pour la majorité, elle s'abstient, parce qu'elle n'y trouve pas son compte. Eh bien, il faut se battre. Monsieur Mazerolle, vous n'avez pas mon expérience politique, vous avez une expérience professionnelle. Ça n'a jamais été facile de construire une organisation politique dans la classe ouvrière. Ça n'a jamais été facile, parce que les ouvriers ont toujours été assommés par la difficulté d'arriver à survivre, parce qu'ils ont toujours été réprimés quand ils s'organisaient en syndicats. Quand le Parti communiste, qui a été le grand parti de la classe ouvrière dans ce pays, eh bien c'était facile nulle part de faire une cellule communiste. Et je vais vous dire, c'est toujours pas facile de faire aujourd'hui une section syndicale de la CGT ou de FO ou de Solidaire dans une entreprise. Par conséquent, les dominants ont toujours passé tout leur temps à empêcher la classe des travailleurs de se rendre compte qu'elle constituait une classe. Tandis qu'eux, ils sont une classe. Et ils sont fiers de le dire. Les bourgeois, les possédants, les dominants, eux, ils constituent une classe. Lisez le magnifique livre de Pinson et Charlot et vous aurez une idée de ce phénomène. Est-ce je me bats, monsieur, pardon, je termine là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je respecte les gens. J'essaye de les convaincre. Je leur dis, venez voter. Parce que les autres, vous les avez laissés passer. Vous avez vu comment vous avez vécu. Mais attendez les suivants. Les Fillon, les Macron et le reste. Alors là, vous allez comprendre votre douleur, hein, si jamais vous les laissez être élus. Est-ce que c'est sans parler de Mme Le Pen, mais ça, tout le monde sait que c'est nul.
Est-ce que c'est justement pour mieux vous faire entendre de ces ouvriers, de ces travailleurs qui ne votent plus ou moins à gauche, que vous leur dites aujourd'hui, notamment sur les travailleurs immigrés, les travailleurs détachés, que ce sont eux qui volent leur pain, comme vous
non,
dites.
Non. Pas du tout, mais ça c'est la caricature qui a été faite par une poignée de gauchistes qui m'en veulent pour régler leur compte entre eux, plus des gens malveillants parce que c'est la campagne. Mais regardons les choses. Mais oui, mais bien sûr, tous mes concurrents ont sauté sur une phrase. J'avais 1 minute 18 pour m'exprimer et au lieu de faire le numéro que j'aurais dû faire avec les doigts en disant entre guillemets, dire c'est vous qui dites qu'ils viennent voler leur pain. Hein. Et je l'ai dit d'une voix lisse, si bien que tous ceux qui y avaient intérêt ont dit c'est ce qu'ils pensent vraiment. Non, ce que je pense vraiment, c'est que je suis contre le statut de travailleur détaché. Donc, si je suis élu, il n'y aura plus de travailleur détaché en France. Pourquoi ? Parce que le travailleur détaché, c'est la délocalisation à domicile. On prend un pauvre diable à l'autre bout de l'Europe et on lui paye là-bas sa sécurité sociale et en Europe, quand il vient dans notre pays, ça n'existe pas pour lui. Le patron ne paiera pas la cotisation
sociale.
Donc on
suspend du jour au lendemain le statut de travailleur détaché. La directive.
Non, ça ne s'appliquera pas en France. Les autres font bien ce qu'ils veulent, mais pas en France. Parce qu'on connaît ce système et sa nocivité. Regardez bien, vous êtes le patron d'une boîte. Mettons que vous fassiez du bâtiment. Vous avez un prix que vous fixez. En gros, le prix de marché finit par s'équilibrer. Et puis tout d'un coup, quelqu'un trouve non pas une nouvelle machine, non pas une nouvelle qualité de plâtre, non pas un nouveau matériau, mais fait venir un travailleur dont la cotisation sociale est inférieure. Eh bien, le patron d'à côté, même s'il veut respecter la loi, même s'il est soucieux de ses ouvriers, il vous dit « mais moi, je ne peux pas tenir le coup ». Donc, il va voir ses employés et leur dit « écoute, premièrement, on va prendre des travailleurs détachés, deuxièmement, on va te baisser le prix de tes heures supplémentaires grâce à Mme El Khomri, et troisièmement, si on peut, il n'y aura plus d'heures supplémentaires du tout grâce à M. Fillon ».
Mais voilà. Au-delà de cette question des travailleurs détachés, quand vous dites que vous n'êtes pas pour le grand déménagement du monde, ni pour les marchandises, ni pour les êtres humains, il y a toute une série de gens de gauche, de la gauche ou d'extrême gauche ou de gauchistes, comme vous dites, qui disent mais c'est plus le Mélenchon d'avant. Le Mélenchon d'avant, c'est le Mélenchon du meeting du Prado à Marseille, qui disait la France mélangée, métissée. Il est en train de faire mouvement sur ces questions-là. Il ne tient plus sur ces questions d'immigration le même discours qu'il y a quelques mois.
Bon, alors, merci de me poser la question, parce que
Celle-là, elle est bonne.
Je suis harcelé avec ça. Mais non, mais vous avez raison, c'est une question qui s'est posée. Le discours de Marseille, il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Dans ce discours, je me réjouis du métissage de la France. Mais je vous pose la question, Est-ce qu'il y a une autre attitude possible ? Oui, il y en a une autre. C'est de déplorer le métissage de la France. Or, la France est métissée.
Mais que dans ça ce la plaise ou pas. Pardon, les soumissions, vous avez expliqué quand même que vous avez bien conscience que ce discours de Marseille vous a probablement coûté des voix.
Non, je n'explique pas ça du tout. À aucun moment, je n'explique pas. Ce qui m'a coûté des voix, c'est M. Mera, cet assassin ignoble qui a été tué des gosses et déclenché une crise de panique qui a ramené toute la discussion du
et
social.
Le discours de Marseille était dans ce contexte.
Le discours de Marseille était dans ce contexte. M. Mazerolle, c'est à mon honneur, ce discours. Parce que dans le moment où la haine semblait vouloir l'emporter, j'ai été celui qui défendait le métissage.
Vous ne croyez pas que ce discours pro-immigration en général
alors, voilà.
est un frein à l'adhésion des classes populaires ?
Non, 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 je ne crois pas. Les classes populaires sont bienveillantes, ce n'est pas le sujet. L'enjeu, ce n'est pas un peu plus de ceci ou un peu moins de cela pour flatter je ne sais quel instinct xénophobe. L'enjeu, c'est la vérité. Confondre l'immigration des années 70 avec l'immigration de l'année 2016, c'est peu réfléchir.
En quoi elle est différente, cette immigration?
Mais parce que dans les années 70, les patrons allaient chercher des ouvriers à bas prix au bled. Et il les ramenait, et les malheureux étaient dans des foyers, et au bout d'un moment, on s'est aperçu que ça ne pouvait plus durer comme ça, de faire venir des milliers d'hommes qu'on exploitait, et on a accepté l'idée qu'ils fassent venir leurs épouses. Ou, évidemment, sans compter ceux qui se mariaient ici même. Si bien que nous avons une et deux générations d'enfants qui sont le produit de cet immense métissage, comme je le suis moi-même, d'une vague d'Espagnols et d'Italiens, et comme peut-être autour de cette table, à coup sûr, vous, monsieur, vous, sans doute, Mazerolle, vous, je ne sais pas, mais vous, ça s'entend dans vos patronymes. Peut-être pas vous, vous êtes plutôt Sévenol qu'autre chose. Mais bon, c'est pour dire. Et on s'en fout, vous êtes d'accord, monsieur Mazerolle, on s'en fout.
Je suis né à Marseille, mais enfin, bon.
Eh bien, Marseille, c'est la ville la plus magnifique du monde.
Le maire de Marseille, Gaston Defferre, Sévenol, oui, c'est vrai.
Mais écoutez, Marseille existe depuis 2600 ans. Écoutez
un métissage,
ça.
Ah oui.
Et
métissage.
Comment ça a commencé, Marseille, s'il vous plaît, monsieur Mazerolle?
Avec les Grecs.
Eh bien, voilà. Et comment ça s'est commencé avec les Grecs? La fille d'un Gaulois du coin a épousé le Grec qui venait de débarquer sur un bateau et qui avait atterri là par hasard.
Et l'immigration 2016, alors encore.
Alors attendez, il fallait quand même raconter Marseille. L'histoire de France, c'est très important. C'est ce qui nous enrichit, parce qu'on a l'expérience du passé. Donc, l'immigration de 2016, qu'est-ce que c'est? Bien sûr qu'il y a de l'immigration économique, mais elle est résiduelle par rapport à l'immigration liée à la guerre. C'est celle-là qui vous fait peur. Quand vous voyez des colonnes de gens à pied, pauvres malheureux, avec les enfants au bras.
Elle vous fait peur à vous ou pas?
Mais non, elle me brise le cœur, voilà ce qu'elle me fait. Elle me brise le cœur quand je vois des gosses se faire matraquer, quand je vois des familles patauger dans la boue. Je m'imagine que c'est moi, que ce sont les miens, ou que ce sont mes enfants. Ça pourrait être mes enfants, comme les vôtres. Donc ça me brise le cœur. Alors, quelle est la réponse? Il faut arrêter la guerre. Deuxième réponse, vous avez des immigrés économiques, d'où ils viennent ceux-là? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous croyez qu'ils se réunissent au bled et ils font du droit comparé social pour savoir où c'est le mieux? Ou au village devant la... Mais qu'est-ce que vous croyez? Les gens n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce qu'au village est arrivé, à la place du sorgho, à la place de la culture vivrière du coin, une marchandise qui arrive d'Europe qui coûte moins cher. Donc tu peux plus vivre de l'agriculture vivrière. Alors tu pars en ville comme un malheureux. Tu arrives à la ville et il y a déjà plein de monde partout. C'est un bidonville. Et des gens organisent en disant, vous savez, si vous allez en Europe, là-bas, ils donnent beaucoup d'argent. Ah bon? Alors, et voilà, et ça se passe comme ça. Et alors, des milliers de gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Arrêter les accords économiques qui nous permettent de submerger de marchandises dont ils n'ont pas besoin les gens qui se trouvent là. Car quand un poulet qui arrive empaqueté avec un code-barre coûte moins cher que le poulet qui court dans la rue, c'est qu'il y a un problème. Quelque part, il y a une arnaque. Et il y en a une. C'est nos productions de masse abominables que nous déversons sur eux. Nous n'avons pas non plus besoin de produire des milliers de poulets dans les conditions dans lesquelles on le fait. J'en profite pour dire que parmi les choses que je mettrai à l'ordre du jour, il y aura la fin de l'élevage.
Donc pas de quota d'immigration, pas de choses comme ça.
Mais attendez, les quotas, mais proposez-moi un quota qui tienne la route.
Je ne sais pas, moi, c'est François Fillon propose des quotas.
Mais il propose des quotas et comment il fait? Alors bon, alors vous dites, je prends 1000 plombiers. Pourquoi? Déjà, on pourrait nous-mêmes former des plombiers. Alors il y en arrive 1022. Qu'est-ce que vous faites des 22 autres? Vous les jetez à la flotte? Vous les faites repartir chez eux de force? Vous les noyez? Qu'est-ce que vous faites? Ça ne veut rien dire de parler comme ça. Alors des fois, on peut dire, on aimerait bien. Il y a des moments où oui, on peut dire, attendez, on aimerait bien. Moi, j'ai dit une bêtise une fois. Vous voyez? Je vais vous faire un aveu. J'ai dit une bêtise une fois. On m'avait posé la question comme ça au débotté. Et on me dit, alors, l'immigration, est-ce que c'est une chance? Une question à la noix, bon bref. Alors je réponds, pouf, et je réponds mal. Je réponds, ah ben si c'est 10 000 médecins, c'est bien. Eh ben non, c'est pas bien, Mélenchon. Parce que si les 10 000 médecins, tu vas les prendre à un pays, et c'est ce pays qui aura payé leur formation, et il vaut mieux que nous on forme des médecins. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si je suis élu, il n'y aura plus de numerus clausus pour les médecins, et qu'on formera autant de médecins qu'on en a besoin, et qu'il y en a ras-le-bol de passer par ces corporations aigres qui ont bloqué et créé une situation où on manque de médecins partout, juste pour quelques-uns puissent accumuler tout ce dont ils ont
avant
besoin.
Avant la césure de 13 heures, il nous reste 2 minutes. Dans votre programme L'Avenir en commun, puisque vous parlez de médecins, sur la santé, vous dites il y aura les remboursements des soins à 100%, oui, y compris pour l'optique, le dentaire et l'auditif.
Comme Macron.
Mais est-ce que vous imaginez...
Non, mais le dentaire et l'auditif et l'optique, voilà, il dit 100%, mais peut-être c'est pas la même chose que vous.
Mais... Ah, mais peut-être, mais vous le dites quand même.
Non, mais attendez,
vous dites quand même que Macron, avant d'avoir réfléchi...
Attendez, j'ai dit que les gens entendent ça, de vous et de Macron. Et
donc, comment vous faites? Est-ce que vous fusionnez la sécurité sociale avec les mutuelles, ou l'inverse?
Mais voilà la bonne question. Macron, il dit que vous rembourserez les deux.
Ça fait de la droite, les deux.
Parce qu'il nous reste 1 minute. Laissez-moi répondre et arrêtez de parler en même temps que moi. Bon, donc, eh bien, si la réponse c'est les complémentaires, ça veut dire que vous allez payer plus cher votre complémentaire, point barre. Donc, quand M. Macron propose 100% de remboursement, il propose que vous payez davantage. Tandis que moi, je dis que vous paierez la même chose, mais que 100% sera remboursé. Pourquoi ? Parce que je crée la sécurité sociale intégrale. Et que donc, un, je réalise des économies de gestion sur ce que faisaient les complémentaires. Deux, évidemment, on garde le personnel dans la nouvelle sécurité sociale. Et en plus, je récupère les 3,5 milliards d'allègements fiscaux qui sont reconnus aux gens qui prennent la complémentaire. Donc j'ai gagné au total à peu près autant que ce que j'aurais dépensé. Et si vous voulez aller voir comment ça marche, mes amis qui êtes curieux, parce que vous êtes journalistes quand même, eh bien vous allez dans un pays extrêmement lointain dont la capitale est Strasbourg, en Alsace et en Moselle, et là-bas vous avez une sécurité sociale quasi intégrale qui fonctionne à 90%. Donc c'est ma proposition à cette heure, juste avant la coupure. Je propose qu'on étende le système d'Alsace-Moselle pour la sécurité sociale à toute la France. Pas le concordat, ça je l'abrogerai.
Oui, le concordat, vous voulez l'abroger, effectivement. Bon, bah écoutez, il y a la césure, et puis on continue avec votre programme, notamment sur le plan social et sur le plan économique, évidemment.
Merci.
Suite du grand jury, RTL, Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise à l'élection présidentielle, député européen. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Jean-Luc Mélenchon reprend avec Alexis Brézet du Figaro et Christophe Jacobicine de LCI. Alexis Brézet a une question complémentaire à vous poser. Il faudrait être sûr qu'il sera bien soigné avec votre proposition.
Oui, voilà, votre proposition de sécurité sociale intégrale à 100% qui passe, si on l'a bien compris, par la suppression des mutuelles complémentaires. Ce que dit aussi d'ailleurs Martin Hirsch cette semaine.
La position de Martin Hirsch est vraiment bienvenue, parce qu'il y a encore 15 jours, j'étais tout seul, et maintenant il a lui une autorité morale qui fait qu'on va écouter sans doute avec plus attention ce que je dis sur le sujet.
Concrètement, déjà, que deviennent aujourd'hui les salariés des mutuelles, des compagnies d'assurance ?
Ils passent dans la sécurité sociale.
Ils sont recrutés par la sécurité sociale.
D'accord. Donc ce que nous allons gagner... c'est d'abord on va soulager le double traitement de chaque dossier. Et par conséquent, on va avoir une masse de personnel qui va permettre une gestion plus tranquille, plus lissée et plus rapide des dossiers.
Ça, c'était le premier point. Deuxième point, qu'est-ce que vous faites de ce qu'on appelle le reste à charge? Aujourd'hui, il y a une partie des dépenses qui sont payées par la sécurité sociale, par les mutuelles, et puis il reste 16 milliards qui sont payés par les malades. Voilà. Si vous dites 100%, il faut trouver 16 milliards.
Absolument. Eh bien, je les ai trouvés.
Ah.
Alors, je cherche...
Vous les cherchez pour l'instant, là-dedans.
Non, mais je vais là. Tant pis si je commets une erreur à quelques unités près. Mais on est bien d'accord. Mon pari, mon raisonnement, c'est qu'à la fin, ça coûte moins cher et que tout le monde est couvert. Pardon, monsieur, de rappeler pourquoi il faut que tout le monde soit couvert. Car contrairement à ceux qui font des économies en disant « on va soigner moins, il y a un jour de carence » et les idioties du genre « responsabilisez-vous », tout ça est en train d'éclater devant l'épidémie de grippe. Alors, comment on fait? Donc, on a bien compris. Pour le personnel, le problème, il n'y en a pas.
On les garde
dans le circuit de travail de la sécurité sociale. Il nous reste 16 milliards, c'est ce que vous venez de dire. Il y a 8 milliards à 10 milliards d'économies sur les frais de gestion. Car en effet, les assurances privées et les mutuelles coûtent plus cher en gestion que ne coûte la sécurité sociale.
Alors là, Martin Hirsch dit que ce n'est pas autant que ça, il parle de 6 milliards, je crois.
Eh bien, admettons.
Bon.
Mais en attendant, on prendra la fourchette basse. J'observe que quand je propose des recettes, c'est toujours la fourchette basse. Et quand je propose des dépenses, vous prenez toujours la fourchette haute.
Parce que vous êtes généreux, c'est pour ça.
Non, j'essaye d'être précis.
Il reste 10 à trouver.
D'abord, c'est ne prenez pas trop de haut. Nous allons voir, bientôt, je vais faire une journée du chiffrage avec mon programme, et pendant 6 heures, vous pourrez interroger un par un, mais c'est pas, vous n'aurez pas l'élève du grand oral de l'ENA, Jean-Luc Mélenchon, à qui on va essayer de demander combien coûte un cure-dent pour être bien sûr qu'il a compris, mais vous allez en quelque sorte rencontrer les économistes du programme, c'est-à-dire Lim Van Hock, Jacques Généreux, Charles Girard, les santé. Autres. Alors accrochez-vous bien.
On était sur la santé.
Au passage, j'en profite pour faire mes annonces, parce que je ne suis pas venu pour garnir votre émission, mais pour faire ma campagne. Alors, pourquoi les frais de gestion? Non, mais quand même, vous pouvez l'entendre, ça, je comprends
pas. Oui, il y a des économies à faire.
Eh bien alors, oui, des économies, mon œil, oui. Bah. 2,8% pour la sécurité sociale, c'est un chiffre bas. Allez, mettons même 6, d'accord? Je prends un truc haut. Pour les mutuelles, 17,5% frais de gestion. Pour les assurances privées, parce que vous savez, comme c'est privé, ça marche toujours mieux et ça coûte moins cher. Ah ben sauf là, 25% ça coûte. Par conséquent, nous allons faire des économies considérables, entre 6 et 10 milliards. Vous avez 3 milliards et demi qui viennent des niches fiscales qui sont accordées aux gens qui ont certaines complémentaires. Il me manque 3 milliards. Je vais les retrouver dans un instant, mais ils y sont. Alors, ce qui est le plus important, c'est que vous compreniez que c'est jouable. Vous me faites peut-être la faveur de ces 3 milliards qu'à cet instant, je n'ai pas l'esprit, mais d'ici à la fin de l'émission, j'aurai retrouvé dans la masse de mes fiches qui sont avec moi. En attendant, donc, c'est jouable. Et la preuve, c'est que ça existe, ça se fait. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'Alsace-Moselle. Mais écoutez-moi maintenant. Je vais dire une chose. Les gens, maintenant, prennent peur à cause de la grippe. 2014-2015... Il y a eu 18 000 morts. Donc les gens prennent peur, à tous âges. Et contrairement à ce que croit M. Fillon, il n'y a pas de petite maladie. Parce qu'on peut, à 60 ans, mourir d'une grippe beaucoup plus facilement qu'à 30 ans. Donc les gens, ils prennent des complémentaires pour être remboursés. Parce qu'ils savent qu'il est rare que vous ayez une seule maladie à la fois quand votre organisme est affaibli. Donc si vous avez la grippe, du coup, vous avez autre chose en même temps. Tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire est un démenti formel apporté à la logique comptable de la gestion de l'hôpital avec le séjour minimum, avec la T2A et toutes ces horreurs qui ont été inventées. Donc les gens, maintenant, prennent des complémentaires et des assurances. Vous savez que la pub des assurances vous coûte 200 millions par an. Hein. Bref, alors que doit-on faire? Eh bien, les gens, ils savent bien que quand vous êtes à la retraite, vous payez plus cher vos complémentaires que quand vous êtes d'activité. Ça veut dire que l'ardoise s'aggrave. Si vous dites aux gens, on va finir votre remboursement, vous allez caler dans les complémentaires, et ça sera obligatoire, eh bien, à ce moment-là, vous leur annoncez juste une mauvaise nouvelle. Tandis que moi, je leur annonce qu'ils seront remboursés à 100% et qu'ils arrêteront de payer plus cher parce qu'ils sont plus anciens. Parce que le devoir est de s'occuper toujours, dans une société, des plus faibles. Les enfants, parce que ce sont les plus faibles. Les plus âgés, parce que souvent, ce sont les plus faibles. C'est une vision de la société. Pour moi, je vois, quand on me parle de société, des êtres humains, alors, jeunes et vieux. Je ne vois pas des
Jean-Luc
clients
Mélenchon.
Et des usagers.
Jean-Luc
des
Mélenchon, usagers, si on pas peut des avancer, clients. Parce que par rapport à votre programme, c'est très,
ah ben moi,
mais c'est très important.
On voudrait connaître
votre sentiment par rapport à l'emploi. Croyez-vous, comme beaucoup, qu'il va y avoir une destruction d'emplois en raison de l'arrivée des robots, du numérique, etc. Et si c'est le cas, pourquoi êtes-vous contre le revenu universel ou alors, est-ce que c'est parce que vous ne croyez pas à la raréfaction de l'emploi?
Ah, mais dites donc, là, c'est une conférence que vous me proposez.
Non.
Mais est-ce que je
d'abord,
crois...
est-ce que vous pensez qu'il y aura une raréfaction de l'emploi? Et si oui, pourquoi
est-ce qu'on peut inévitable
des emplois pour tout le monde? On va commencer par le bon bout, pas la raréfaction de l'emploi.
C'est une mauvaise question, celle-là.
Mais non, mais... Le bon bout, c'est est-ce que l'activité va diminuer ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir moins besoin de soins, moins besoin d'école, moins besoin d'instruction ? Non, le contraire. Donc on commence par ça. Les besoins, eux, sont en expansion. En plus, comme nous devons changer tout l'appareil productif, il va falloir le renouveler. Les machines ne sont pas les bonnes, les process de production ne sont pas les bons, et les marchandises qui sortent empoisonnent la vie des gens. Donc vous voyez, du travail, il y en a en masse. Maintenant, deuxième élément de l'analyse. Il faut de moins en moins de travail pour produire une quantité toujours plus grande. Mais ce n'est pas nouveau. C'est pas, ça va venir avec les robots, les amis, atterrissez, mettez-vous vos fichages à jour. La quantité de travail, depuis 1870, elle a été divisée par deux pour produire une masse de richesse 30 fois supérieure Bon, alors c'est bon, on le sait, c'est pas une nouveauté. Et chaque fois qu'il y a un nouveau process de production, de nouvelles machines, les robots, qu'est-ce que c'est? C'est des machines, hein, je voudrais le rappeler à tout le monde. Donc il faut bien fabriquer les robots eux-mêmes. Vous pouvez toujours penser que des robots vont fabriquer les robots qui fabriqueront des marchandises, qu'à la fin, quoi, on vous distribuera. Parce que s'il n'y a plus personne qui travaille, eh ben, il n'y a plus personne qui a des revenus.
En attendant de retrouver un emploi pour tout le monde.
Attendez, je viens sur le revenu, parce que c'est là que j'ai ma transition.
Oui.
Vous pouvez décider à un moment donné que toute la plus-value est socialisée. Et à ce moment-là, vous la redistribuez en un revenu universel à tout le monde. Mais pour que le revenu universel fonctionne, il faut qu'il soit universel, et pour ça, il faut socialiser toute la plus-value. Moi, je ne suis pas partisan, aujourd'hui, 2016, je ne sais pas nationaliser la totalité de la production. Je ne sais pas le faire. Mais il y a peut-être des gens qui savent le faire. Mais moi, je ne sais pas le faire.
Donc vous n'êtes pas pour un revenu minimum, socle commun pour tout le monde, qu'il ait un travail ou pas, de manière à avoir...
Merci. Bonne question, monsieur Jacques. On vous en donne.
Ça y est, c'est un bon point.
Non, mais je voyais bien que vous vous sentiez mal d'être le maltraité.
Non, pas du tout. Ça me va très bien.
Bon, ça vous va très bien. Je vais continuer. Si vous cherchez les bas, vous les aurez.
La question et la réponse maintenant.
C'était quoi la
question? Parce que la question est bonne.
Est-ce que le revenu... Non, mais j'ai compris. En plus, vous avez prononcé le bon mot. Vous avez dit, est-ce que vous êtes d'accord pour un revenu minimum qui soit donné? Vous avez commencé à établir. Ben ça, c'est plus un revenu universel. Vous savez quoi, monsieur? Je vais vous dire une chose. Il y a déjà une chose extraordinaire qui existe qui s'appelle l'eau tiède et l'eau chaude. Et vous avez le RSA, ça existe déjà. Donc, vous augmentez le RSA et vous le donnez jusqu'à 25 ans, ça s'appelle le RSA. Ça ne s'appelle pas le revenu minimum. Ce n'est pas ma thèse. Donc, nous sommes bien d'accord. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent avec justesse que toute la vie des êtres humains ne peut pas tourner autour de leur obligation au travail. Nous avons déjà un premier débat sur le fait que les êtres humains sont des êtres qui reproduisent leur propre vie par leur travail. Mais moi, je suis de ceux qui pensent, en effet, qu'il faut partager le temps de travail nécessaire pour produire les richesses. Par conséquent, diminuer le temps de travail que chacun fait aujourd'hui. Car aujourd'hui, vous avez un partage sauvage. Il y a ceux qui font tout et les autres qui font rien. Et personne n'a demandé à rien faire.
Aller vers les 32 heures, vous dites.
Mais sur ce revenu universel, qu'on comprenne bien.
Aller vers les 32 heures.
On n'a pas compris, là.
Vous dites, aller vers les 32 heures.
D'abord, on rétablit les 35 heures. Moi, je suis candidat pour un mandat de 5 ans. D'accord ? Pas pour un mandat de 10 ans. Et en plus, il va s'arrêter en cours de route, parce qu'il y aura l'Assemblée constituante qui aura changé les institutions, et j'engage ma parole sur le fait que dès qu'il y aura une nouvelle constitution, je démissionnerai pour qu'elle s'applique immédiatement. Donc moi, je ne promets que ce que je peux tenir, à coup sûr. Donc, nous ferons les 35 heures, nous les rétablirons avec... Et comment on les rétablira? En augmentant le coût de la 36e heure. Il n'y a pas besoin d'un texte lucide pour comprendre. Et c'est une bonne méthode.
Les heures supplémentaires coûteront plus cher.
Eh bien, évidemment. Ah ben évidemment, encore heureux, sinon ça sert à rien. La preuve, c'est que...
Non mais beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Évidemment, aujourd'hui, c'était 25%. Et le PS a diminué les heures supplémentaires à 10% et les a refiscalisées, la totale. Comme ça, les gens, il leur reste plus rien à la sortie. Bon, donc maintenant, ça coûtera plus cher, parce que l'idée est de pousser
25
à l'emploi. Attendez, mais ça, on va voir combien... Écoutez le raisonnement, d'abord.
Parce que dans votre programme, c'est 25.
Eh bien, très bien. Alors,
c'est 25. J'ai lu votre programme.
Mais voilà, c'est bien, monsieur Mazzol. Mais même 25, ça se discute. Parce qu'il faut vite que leur sub coûte plus cher. Sinon, vous n'achetez pas de machine. Écoutez-moi, vous voulez une économie de quoi? Vous savez que la plupart du temps, j'entends tous ces imbéciles dire à la télé, à la radio, on travaille le moins en France. Vous voulez travailler plus? Vous voulez faire comme la Bulgarie? Vous voulez faire comme la Grèce? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il faut avoir des machines, et des machines de plus en plus sophistiquées, parce que c'est ça qui soulage la peine humaine, et qui permet de produire plus, avec moins d'heures de travail. Alors, on a donc bien dit, on rétablit les 35 heures. Mais on ouvre la discussion sur les 32. Parce qu'il y a des entreprises qui sont d'accord pour commencer. Et on a besoin de voir ça. Il y a
32
des pays
payés 35 ça.
Ah ben ça, c'est clair que la réduction du temps de travail, c'est toujours à salaire constant, donc ça n'est pas facile à faire. C'est pour ça que je ne vous dis pas que je vais le faire. Parce que si je savais payer 32 heures aujourd'hui, comme le demande par exemple la CGT, je le dirais. Je pense qu'il faut...
Là, vous dites, on ouvre des discussions.
Ah ben clairement, parce que voilà pourquoi. Ce n'est pas que les 32 heures, ce soit pas applicable. Mais il me semble, à cette étape, qu'on ne peut pas faire à la fois la retraite à 60 ans avec 40 annuités, la journée de travail de 8 heures... et la semaine de 32 heures. Alors, on peut décider, si on discute, on peut dire, ah ben écoutez, monsieur Mélenchon, la priorité, la retraite à 60 ans et 40 annuités, ça, c'est pas la peine de discuter, on le fera. Mais entre les différentes formes de réduction du temps de travail, oui, il y a une discussion. Et je suis prêt à admettre que ça se discute. Mais je ne promets pas ce que je ne sais pas faire.
Pardon, une seconde en arrière sur ce revenu universel de Benoît Hamon, vous nous avez dit que vous n'étiez pas d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous dites que c'est une arnaque, c'est pas assez par rapport aux protections nécessaires, ou est-ce que vous nous dites, je ne suis pas d'accord, parce que philosophiquement, c'est prendre acte de la fin du travail. Voilà. Quelle est votre opposition à cette
Mon opposition, d'abord, elle est concrète et matérielle. D'abord, l'idée du revenu universel, ce n'est pas, pardon de le dire comme ça, l'idée de Benoît Hamon. Hein.
Non, mais c'est aujourd'hui lui qui la défend, qui l'a imposé dans les débats de la primaire socialiste.
Il est là, oui, si vous voulez. Pourquoi pas. Mais je ne veux pas lui enlever tous ses talents. Nous allons regarder le contenu, ce qu'il propose. Parce que ça commence à bien faire aussi, de mettre des noms sur des choses, et puis ça ne correspond pas. Hein. C'est comme gouvernement de gauche, ah bah, ils sont tous de, ils ont tous de droite. Gouvernement du peuple,
il y a 14 millionnaires dedans. On a l'impression que vous avez été agacé qu'il vous ait chipé, c'est une bonne idée, en fait. Que vous ne reconnaissez pas le fait que ça fait, dans le débat, réfléchir.
C'est risible. Vous êtes contre pourquoi ? On se chipe des idées, c'est un truc de journaliste.
Vous êtes contre pourquoi ?
Vous êtes contre. Il y a un bon sujet à l'autre, mais là, on parle de choses sérieuses. On parle de programme politique, de ce qu'on propose à une société.
Et pourquoi vous êtes contre, alors, du coup ?
C'est si vous me laissiez le dire, au lieu de m'interrompre pour parler de trucs de chipé, je vous le dirais. Bon. Donc, d'abord, rappelons une chose. Les inventeurs du revenu universel n'ont pas cherché à tromper les gens. Il y a une théorie du revenu universel, et il faut l'attribuer à son auteur, Bernard Friot, qui a une construction extrêmement cohérente et un programme politique qui va avec.
Et bien des auteurs libéraux avant lui, d'ailleurs.
Bon, peut-être, mais ne commençons pas à voler aux gens. Non, pas les auteurs libéraux. Parce que Friot veut salarier la qualification, donc il l'évalue. Et je suis pleinement d'accord avec sa méthode d'évaluation de la qualification, même si je dis honnêtement, je ne sais pas faire la socialisation de toute la plus-value de ce pays. Voilà, au moins c'est clair. Bon, donc, attribuons les idées à ceux qui sont capables de les présenter. Ce que nous avons sous les yeux avec la proposition de Benoît Hamon, ce n'est pas un revenu minimum universel. Alors. Dans un premier temps, ça l'était. Il l'avait mis à 530. Ensuite, il a changé. Il est passé à 560. Et moi, j'ai dit 530, vous n'êtes pas loin du RSA. Donc, vous annoncez que vous augmentez le RSA et que vous l'attribuez aux jeunes, c'est tout. Mais parlez pas de revenu minimum universel.
Non, aux jeunes, à tout le monde, même à ceux qui travaillent. Vous avez
voilà. On donne à tout le monde. Voilà. J'ai commencé par dire, ah ben, vous voyez l'histoire. Donc, il y a un gouvernement qui se dit de gauche, qui arrive au pouvoir, il augmente le RSA de 30 euros et il augmente M. Dassault de 560.
Il augmente aussi les impôts de M. Dassault, en même temps,
attendez.
Pour financer.
Je vous avais dit qu'il va nous rester 9 minutes, que par conséquent, nous avons d'autres questions également à poser.
Mais est-ce qu'on m'a bien compris ? Donc, après, il y a un deuxième débat que vous avez raison de poser, qui est un débat, on va dire, anthropologique, sans vouloir faire les grands mots, mais qui concerne l'idée qu'on se fait de la vie humaine. Quelle est la place du travail dans la vie des êtres humains ? Alors, ça dépend de quel travail, j'ai envie de vous répondre. Parce que si c'est le travail où on se démolit le dos, où on s'écroule la santé, et tel qu'un ouvrier meurt à 59 ans, quand celui qui n'est pas ouvrier, la moyenne est beaucoup plus élevée, alors j'aime mieux vous dire que oui, celui qui fait ce travail qui va le tuer plus tôt, eh bien, il a intérêt à pas de travail ou à un autre travail. Mais je vais vous dire, même celui qui fait un travail très difficile, il aime ce qu'il fait. Hannah Arendt décrit très bien la différence qu'il y a entre la tâche et l'œuvre. Pour beaucoup de personnes, je vais vous annoncer un truc, tout le monde aime ce qu'il fait, souvent, et essaye de bien le faire, même s'il ne l'aime pas. Quelle que soit la tâche, les gens aiment la transformer en un objet personnel, se l'approprier. Donc, vous savez, le rapport au travail est peut-être plus compliqué. Entre personne n'a envie de travailler, ce qui n'est pas vrai, et le travail est une torture à laquelle nous sommes condamnés depuis le début de la Bible, le travail est une torture,
Jean-Luc Mélenchon,
vous savez qu'il est présenté comme ça, il y a peut-être
Il ne reste que 8 minutes, j'aimerais bien qu'on aborde d'autres chapitres de votre avenir en commun, c'est votre programme, vous dites il faut mettre au pas la finance, et vous proposez de limiter de 1 à 20 l'écart entre le salaire minimum et le salaire maximum dans une entreprise, et vous voulez taxer tous les revenus au-delà de 400 000 euros par an.
À 100%.
À 100%, bien évidemment. Bien évidemment, non. Mais enfin, en tout cas, à 100%. Et vous voulez faire payer l'impôt par les Français où qu'ils résident dans le monde.
Oui.
Là, pour le coup, c'est une purge fiscale.
Comme les Américains.
Mais c'est exactement le contraire.
Non, mais l'ensemble.
Non, mais
je parle de l'ensemble.
Parce qu'il y a une chose que vous avez oubliée dans votre liste, pas qu'une d'ailleurs, mais c'est que le barème de l'impôt, il serait de 1 à 14. Ça me paraît assez décisif. Parce que si vous mettez le barème de l'impôt de 1 à 14, eh bien, c'est plus ceux qui sont au milieu qui portent tout sur leur dos. Deuxièmement, si vous mettez une CSG progressive, pour l'instant, elle ne l'est pas, elle est juste proportionnelle. Vous gagnez 1 euro, vous en gagnez 10. Que c'est le même tarif. C'est pas juste. Parce que si j'ai gagné 1 euro, ça vous fait pas le même effet que 10.
Donc fusionnez les deux.
Donc, non. L'assiette sera sans doute fusionnée. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire la même assiette pour prélever l'impôt sur le revenu et la CSG. Mais deux prélèvements différents, parce qu'on ne peut pas enlever le financement de la sécurité sociale direct à la sécurité sociale. Je ne suis pas d'accord. Il faut que l'on se souvienne que la richesse vient du travail et que le travail produit la richesse qui permet de soigner les travailleurs, qu'ils puissent partir à la retraite. Ça, c'est une question philosophique. Je ne suis pas d'accord pour que les recettes de la sécurité sociale soient retirées de leur lien au travail et aux travailleurs et de la gestion ouvrière. J'en profite pour dire que si je suis élu, je rétablirai les élections à la sécurité sociale, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde et surtout pas pour le MEDEF, dont la présence là-dedans est une usure qu'a introduit le général de Gaulle, alors qu'au début de la Sécu, il n'y avait pas de patron dans la gestion, pour la raison qu'on considérait que les cotisations étaient du salaire des travailleurs. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, 14 tranches, de 1 à 20, ce n'est pas la proposition de Jean-Luc Mélenchon, parce que si c'était la proposition de Jean-Luc Mélenchon, ça serait plus dur. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'accumulation sans limite, mais c'est la proposition de la Confédération européenne des syndicats. Il y a des pays où on applique déjà le 1 à 20, je pense au moins à mon ami Rafael Correa, qui l'a appliqué en Équateur, après aussi qu'on en ait discuté. Donc ce n'est pas vrai que c'est une purge. Et enfin, l'impôt universel.
Juste avant, comment vous faites avec le Conseil constitutionnel? Parce qu'il ne veut pas déjà d'une taxe à 70%, il ne voudra pas d'une taxe à 100% au-delà d'un certain niveau.
Eh bien, nous verrons bien. Je pense que nous aurons créé une ambiance de travail qui aidera tout le monde à réfléchir. Et comme de toute façon, il y a une assemblée constituante, peut-être qu'à la sortie, ce genre d'attitude ne sera plus à accepter.
Donc plus de conseil
le Conseil constitutionnel n'a pas à évoluer les arguments en opportunité. D'accord ? Il a uniquement à s'en préoccuper au plan des principes. Je ne vois pas, quand on est une république qui marque liberté, égalité, fraternité, en quoi c'est un problème de baisser, de rendre progressif la CSG.
Ça, c'est un message pour Laurent Fabius, donc.
C'est un message pour tout le monde. Que tout le monde entende bien que le temps des politiques qui disent une chose en font une autre parce qu'ils ont peur, avec moi, est terminé. Je n'ai peur de rien. Et j'appliquerai le mandat qui me sera donné. Je l'appliquerai dans les formes qui sont celles de la Constitution, avec des arguments, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle Constitution. Et s'il y a un problème, pardon, je termine, si vraiment il y avait un problème, si vraiment il y en avait un énorme, que le Conseil constitutionnel s'entête et veuille s'opposer à la majorité politique qui aura été élue, eh bien nous ferons un référendum. Et nous verrons bien ce qui se passera à ce moment-là. Si les gens vont dire « Ah oui, 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 on a raison, que certains continuent à se gaver comme avant, et les autres, c'est normal qu'on tire la langue, parce que notre père tirait la langue, notre mère tirait la langue, notre grand-père aussi. » Ce temps-là est fini. Donc il faut que tout le monde le comprenne. Et la seule manière que tous le comprennent, c'est que ça soit moi qui sois élu. Parce que rien qu'à me voir, vous savez que je ne changerai pas d'avis.
L'impôt universel, comment
alors l'impôt, ça c'est très facile. C'est une invention américaine. Pour une fois, hein. Voilà. Ça consiste à dire, je vais dans un pays, je paye mes impôts, c'est normal. Nous demandons aussi aux étrangers de payer leurs impôts chez nous. Et j'ai un revenu X. J'envoie ma déclaration au fisc français et je dis, j'ai payé tant pour tel revenu. Voilà.
Je suppose que ce soit centralisé.
À ce moment-là, le fisc français regarde, ah ben, si vous auriez dû payer plus en francs, eh ben, tant que vous payez. Voilà. Donc déjà, tous ceux qui font de l'évasion fiscale, où qu'ils aillent, on les retrouve. Est-ce que c'est possible? Mais les Américains le font. Ils courent sur la terre entière, dans les banques. Je vous apprends quelque chose. C'est un banquier qui me l'a raconté, enfin un employé de banque, qui m'a raconté cette histoire. On lui a demandé de chercher des traces d'américanitude dans le fichier. Les gens qui avaient l'air d'Américains, pour voir si ça n'en était pas par hasard, vu que les Godons voulaient absolument connaître le nom des gens qui doivent leur payer.
Ça vaut pour les Français qui sont à l'étranger. Ça vaut aussi pour les doubles nationaux?
Non, mais ça vaut pour tout le monde. Si vous êtes français, c'est pas parce que vous êtes double national, vous n'êtes pas moins français. Pardon, moi je m'en fiche, j'ai votre nationalité. La seule qui compte pour moi, c'est la France. Donc vous êtes français, vous payez, point. Et après on me dit, une objection qui est là, on me dit, mais est-ce que c'est réalisable? Mais écoutez, c'est déjà fait, j'ai dit par les Américains. Mais moi qui vous parle, Mélenchon, je suis astreint à ce régime, car je paye mes impôts à la Commission européenne, je déclare au fisc français qui me repasse dessus juste derrière.
Jean-Luc Mélenchon, il nous reste vraiment 3 minutes à peine, si on peut encore poser.
On a compris que c'est contre les gens qui se sauvent, les immigrés fiscaux.
La dette française ne sera jamais remboursée. Alors, comment on fait pour emprunter à l'avenir si on a besoin d'argent alors qu'on rembourse
j'ai
pas.
J'ai quoi, 3 secondes pour expliquer ça?
Ben oui.
Bon, attendez, c'est pas sérieux, mais je vais quand même vous dire une chose. Quand je dis la dette ne sera jamais remboursée, je rends un diagnostic historique. La dette française ne sera jamais remboursée, la dette grecque ne le sera jamais, la dette portée. Personne dans l'histoire n'a jamais éclusé des masses de dettes pareilles avec des méthodes
alors,
pacifiques.
Comment on peut, à l'avenir, emprunter?
Alors, je vais vous citer M. Minc dans une réunion où j'étais avec lui il y a quelques années de ça. C'était un forum organisé par un quotidien. Et Minc, qui n'en pouvait plus des questions qu'on lui posait, comme vous êtes en train de le faire, a dit, il n'y a pas 36 solutions. Un, vous remboursez. C'est-à-dire, vous tirez la langue jusqu'à par terre. Donc ça, c'est plus possible, parce qu'à la fin, ça se termine comme la Grèce. Deux, vous faites de l'inflation, et vous fondez le stock de graisse. Moi, j'aime l'inflation. D'accord ? Le banquier central, il ne sait pas comment arriver à 2% d'inflation. Ben moi, je peux lui expliquer très vite comment on peut faire. L'inflation, c'est bien, c'est pacifique. On sort en douceur d'une masse de dette. Troisièmement, vous pouvez faire
ruine,
la guerre.
Ça ruine les épargnants, au passage.
Non, mais il n'y a pas d'autre méthode, cher
d'accord,
monsieur.
Non, non, mais je ne vous dis pas le contraire. Mais
il y a l'inflation,
ça a aussi
et après,
des
inconvénients. Il y a la guerre. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre solution.
Mais comment on peut emprunter ensuite si on ne rembourse pas ce que l'on doit ?
J'ai pas dit qu'on n'allait pas rembourser. J'ai dit que personne ne paiera. Alors, mais écoutez-moi attentivement.
Quelle est la différence ?
Eh bien, la différence, elle est très grande. Prenons l'exemple. Je suis monsieur Mario Draghi. Au lieu de faire le clown, aller donner de l'argent, 80 milliards tous les mois, à toutes les banques privées de toute l'Europe, pour qu'elles, soi-disant, stimulent la production, ce qui représente, mes amis, 6 millions de SMIC qu'on pourrait donner aux gens. C'est au point que monsieur Mario Draghi lui-même a dit un jour à quelqu'un qui lui posait une question très piquante et impertinente, je lui ai dit, est-ce que vous imaginez de jeter de l'argent par les fenêtres pour le donner aux gens ? Il a dit, oui, oui, j'envisage aussi de faire ça. Bref, la Banque centrale, pourrait racheter toutes les dettes nationales et les stocker dans ses coffres. Ça s'appelle une dette perpétuelle et personne ne paye. Et comme ça, le titre de la dette ne disparaît d'aucun bilan, d'aucune entreprise, et pour autant, l'économie continue à fonctionner. Et maintenant, les gens, écoutez-moi, ou vous payez et vous crevez, ou vous trouvez autre chose. J'ai trouvé autre chose. Il vaut mieux faire avec moi que de mourir comme sont en train de le faire les Grecs ou tous les autres pays qui acceptent les médications de brut qui leur sont appliquées par la Commission européenne.
Il est 13h25, c'était l'heure prévu pour la fin de ce grand jury. Merci Jean-Luc
Merci
Mélenchon.
Beaucoup,
et ce grand jury sera retransmis de nouveau cet après-midi sur LCI à 18h30.